Morin. Live.
Avec Dominique Morin.
Live. Nous sommes profondément désolés.
Radio X.
Donald Charrette.
Qu'est-ce qui se passe en ville?
In the city with Donald.
Avec Donald Charrette.
Comment ça va, Donald? Va très bien, merci. Très content de te voir avec nous autres ce matin parce que ça brosse un peu. Le lendemain de mise à jour économique, faisait longtemps qu'on ne s'était pas contenté juste de faire une mise à jour économique. Hein. Normalement, il y a toujours des nananes, des bonbons électoraux qu'on essaie de donner. Hier, on a juste dit, écoute, le déficit était de temps, aujourd'hui c'est de temps, puis il manque 3 milliards à trouver. Comment tu as trouvé le budget hier?
Ben écoute, c'est pas un budget, c'est une mise à jour. Hein. C'est ce qu'on appelait un mini-budget il n'y a pas si longtemps. Là. Écoute, moi, ce que je trouve révélateur dans ce mini-budget-là, c'est que bon, le gouvernement est complètement fauché. Là, on voit qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Là. Pour pouvoir donner un petit répit aux contribuables, parce qu'on avait annoncé un répit, on est obligé d'utiliser les caisses de retraite. Dire, regarde, on va moins cotiser dans les caisses de retraite. Ça veut dire que le gouvernement lui-même n'a plus d'argent. T'sais, ça, c'est comme disait Dominique tantôt, c'est des caisses autonomes. T'sais, ils ont des surplus. Oui. Fait que, t'sais, ça n'a rien à voir. Le gouvernement n'a pas une scène là-dedans. Là.
Rien.
Dans ce qui est annoncé, il ne met pas d'argent. Là. Alors, ça vient des... Un léger répit de... Ça vaut jusqu'à 187$ que j'ai lu. Là,
pour oui,
un...
oui.
Alors, on ne s'en tirera pas beaucoup. Là.
Les entreprises, c'est une couple de milliers de dollars, par exemple. Ouais, en général.
Oui. Mais tu sais, puis même dans le cas de la forêt, c'est très peu. Là, on parle de 43 000
dollars. Mais en même temps, Donald, tu sais, on va regarder la réalité en face. Là, si on se met les yeux en face des trous, là, c'est impossible. Impossible, impossible. Ça n'arrivera jamais, peu importe les promesses qu'on entend, que quelqu'un réduise les impôts ou les taxes en un an de façon significative, là, de façon à ce que tu te dises, oui, ça va avoir un réel impact dans mes poches. C'est pratiquement... Il n'y a personne qui va réduire les impôts de 1 000$ par année au monde.
Alors, ah tu sais, puis là, j'ai hâte de lui voir un vrai budget au printemps. Là. Mais ce qu'on voit hier, c'est que il n'a pas d'argent. Puis je regarde même, il faut regarder aussi les dépenses par ministère. T'sais. Dans le cas de la santé et l'éducation, on parle d'augmentation de dépenses de autour de 2%, grosso modo, 1,6-2%.
En bas de l'inflation.
C'est en bas des coûts de ce qu'on appelle les coûts de système.
Oui.
Ça veut dire qu'en le cas de la santé et l'éducation, ils n'ont pas assez d'argent pour combler les dépenses naturelles là, qui viennent avec l'inflation, les conventions collectives.
Parce que c'est pas si loin de l'inflation, mais chaque année, et depuis longtemps, là, peu importe, même quand l'inflation était à 1,5%, là, la santé et l'éducation augmentent leurs dépenses année après année de 6, 7, 8 %.
Dans le cas de la santé, on vous dit que ça prend au moins 5 % pour combler les besoins naturels. Là, alors là, ça veut dire qu'on est en austérité encore pour un bon bout de temps. Alors, tu sais, le gouvernement, il est vraiment coincé. Il n'y en a pas d'espace. Là. Puis hier, j'ai trouvé ça un peu...
Mais on appelle ça de l'austérité. C'est intenable pour la population de financer des augmentations comme ça.
Ouais.
Quand l'inflation est autour de 2 % que nos salaires suivent pas mal ça, on peut pas financer des augmentations de 5, 6, 7 % par année.
Oui, puis tu sais, il y a une histoire hier qui est passée, pas inaperçue, on en a parlé un peu, mais tu sais, le fait que, tu sais, on a déjà siphonné l'argent de l'essence pour mettre ça dans le fond vert. Là,
ouais,
le fond,
oui.
Là, on siphonne le fond vert puis on l'envoie dans le fond des générations.
Ouais,
alors, on détourne un fond qui était destiné à des initiatives climatiques là, pour combattre la crise climatique et on détourne ça vers le fond des générations. C'est pas une semaine de mauvaise affaire.
C'est pas scandaleux pour nous autres.
Mais ça veut dire que tu n'en as plus d'espace, tu n'as plus de place à jouer, tu vas puiser partout. Alors écoute, on se dirige vers une année extrêmement difficile. Puis les projections là, de développement économique cette année sont très, très modestes.
Ah oui,
on ne sait pas encore ce qui va arriver avec les tarifs, etc. Fait que tu sais, c'est un budget. Hier, honnêtement, il n'est pas mauvais. Je pense qu'il n'est pas mauvais. Il a fait ce qu'il pouvait dans les circonstances.
Mais on n'a pas une scène.
Mais on n'a pas une scène, puis il n'y a pas de cadeau, puis il n'y aura pas de cadeau de sitôt. Là,
c'est le petit gars qui dit à sa mère, Maman, mes souliers prennent l'eau, puis sa mère, il dit, ben tu sortiras quand il fera beau.
Tant et aussi longtemps qu'on va conserver, qu'on ne reverra pas le modèle québécois, on est condamné à avoir des budgets comme ça.
Je pense que tu as raison.
Peu importe avec un autre gouvernement, avec un autre parti que la CAQ, ça va donner exactement la même chose. Tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas qu'il faut revoir notre modèle.
Oui, puis tu sais, au bout de la ligne, c'est toujours la même chose que le contribuable, lui, là, il est pressurisé au maximum. Il n'y en a plus, le contribuable d'argent à donner. Là,
on va taxer les riches.
Oh oui, mais puis même, je disais ce matin que même hier, c'est un budget de consolidation. Là, il y a quand même 5 milliards de plus de dépenses que le gouvernement. Il y a 5 milliards de plus, le gouvernement va aller chercher dans le poste des contribuables de plus sur quelques années.
Oui.
Il va continuer à taxer et à imposer. Alors, tu sais, Comme tu dis, ça va prendre des grosses réformes, puis je les vois pas tout de suite. Là.
Non, ça arrivera pas. Puis, tu sais, ce 137 pièces-là, on va le prendre, mais au final, c'est encore un compte qui va faire des surplus. J'ai à suivre, on s'en va en campagne électorale, j'ai hâte de voir le budget qu'il va nous faire au mois de mars. Je pense que s'il décidait de donner des nananes, ce serait mal vu par la population.
Ben, moi aussi, je pense que les gens en sont pas là, puis ils ne croiraient pas vraiment. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, là. On avait eu 500 piastres, là.
Oui.
Puis tout le monde disait, bon, il a essayé d'acheter le vote, là. Mais cette fois-ci, ça passera pas, parce que je pense que tout le monde est très conscient de la situation précaire des finances publiques, là, pour ne pas dire catastrophique. Puis il y a toujours aussi un risque, tu sais, il y a toujours un risque de décote, là. Tu sais, il y en a une l'année passée, là.
Oui.
Alors, tu sais, il faut qu'ils fassent attention avec les milieux financiers, là. Moi, ce que je vois hier, c'est qu'ils sont sur le bord, là. Tu sais, ils font attention parce que s'il y avait une autre décote, ce serait catastrophique.
Oui, heureusement, les agences ne sont pas toutes pareilles, puis il y a des agences qui nous donnent un break supplémentaire. Là.
Oui.
Mais effectivement, une autre décote, on ne survit pas à ça. Ce serait hallucinant. Ben, Sam Marissal, lui, est-ce qu'il est en décote?
Oui, tout à fait. Je pense que M. Marissal, que je connais un peu, parce que j'ai travaillé avec lui quand il était jeune journaliste, il faut se rappeler.
Oui, il a travaillé au Soleil.
M. Marissal a commencé sa carrière au Soleil à l'époque, okay. Là, puis il a travaillé en politique.
Ben, moi, c'est le plus vieux souvenir que j'ai de lui.
Oui.
Il travaillait au Soleil. De 93 à 97, sur la colline parlementaire.
Jeune journaliste, il a travaillé dans la salle de rédaction au Général, comme on dit, puis après ça, en politique. Là. Alors, on était collègues pendant quelques années, il y a bien longtemps. Là. Alors, M. Marissal...
Il était souverainiste?
on connaissait pas ses opinions.
OK.
Mais j'étais très surpris à l'époque quand il est devenu solidaire. Là. Ça m'a beaucoup étonné.
Ah ouais? Il
semble que ça ne correspondait pas beaucoup au profil que je connaissais du gars. Là, mais ceci dit, bon, alors, M. Marissal, écoute, moi, je pense qu'il a porté un excellent jugement sur Québec solidaire. T'sais.
Oui.
Ce qu'il a dit en fin de semaine, c'était très dur, là, c'était très, très, je dirais même violent à l'endroit. T'sais.
Mais...
C'est un règlement, tu sais, c'est un jugement assez lucide sur l'effondrement de Québec solidaire.
Sauf que le jour 1 où il a joint Québec solidaire, s'il m'avait consulté, j'aurais pu y dire, là.
Non, mais il a dit ce que beaucoup de monde pense, mais venant d'un gars de l'interne, alors ça a fait beaucoup de bruit. Alors, je pense qu'il avait raison. Ceci dit, ben là, ce qui ressort de plus en plus, c'est ses convictions variables. Là. Alors, tu sais, il était... je pense qu'il tendrait de battre Gertrude Bourdon dans le magasinage des partis politiques.
Oh, assurément!
Oh, oui.
Wow! Ça prenait Donald pour nous ramener Gertrude à matin. Moi, je vais te le dire, Vincent Marissal, peu importe les opinions, là, ça n'a rien à voir avec l'opinion, ce que je vais te dire là. Il m'a toujours paru, de l'époque où il faisait des plateaux de télévision, de l'époque où il travaillait à la presse, de l'époque où il était chroniqueur, ça m'a toujours été paru comme étant quelqu'un de vivant, comme étant quelqu'un qui se passait quelque chose entre les deux oreilles. Et je n'ai pas perçu ça tout le temps qu'il était à Québec solidaire. J'avais l'impression que c'était le néant. Et il a recommencé à vivre la fin de semaine dernière. Ça a l'air très, très éteignoir comme base politique Québec solidaire.
Oui, on dirait qu'il a retrouvé sa lucidité journalistique.
Oui,
là, c'est comme plus, c'était plus analytique. Là, c'est une analyse froide. De où s'en va Québec solidaire. Alors, moi, je pense qu'il est comme retombé dans ses souliers de chroniqueur politique. Là.
Absolument.
Ceci dit, il a quand même participé à ça. Puis
oui.
Il a été muet sur bien des sujets pendant longtemps.
Oui.
Alors, pourquoi il ne s'est pas exprimé avant? Pourquoi il n'a pas émis ses réserves, soit sur la grève à STM ou sur le recentrage de Québec solidaire? On ne l'a jamais entendu. Là.
Sur Arun Boisy.
Alors, là, maintenant, il découvre que j'aurais dû parler. Alors, il était un peu tard. Puis la vraie question qu'il faut se poser dans le cas de Marissal, je pense, c'est est-ce que le Parti québécois doit lui ouvrir la porte du côté de Rosemont? Moi, à la place du Parti québécois, je ferais attention.
C'est la question que je voulais te poser, Donald. Est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu ouvrirais la porte?
Bien, moi, je l'entrouvrirais puis je l'enverrais. Je le désignerais pas dans Rosemont. Je l'enverrais en investiture.
Rosemont vont voter pour le Parti québécois lors de la prochaine élection.
Oui.
C'est pas pour rien que Jean-François Lisée avait ciblé cette circonscription-là. C'est une circonscription péquiste. Le PQ est en train de crouser des gros noms. Là. Il est en train de crouser des grandes personnes pour venir faire partie du prochain gouvernement. Parce que jusqu'à date, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui vont former le prochain gouvernement.
Ça fait un an qu'ils sont en avance dans les sondages. C'est clair qu'il y a plein de gens qui appellent, qui cognent à la porte, qui sont intéressés.
Là. Moi, cette circonscription-là, je la garderais pour quelqu'un de compétent.
Bon, c'est un bon côté pour le Parti québécois. Alors, est-ce que tu le réserves à un transfuge qui est extrêmement critiqué? Où tu dis, je fais une vraie investiture, puis je vais aller chercher un bon candidat. T'sais. Moi, en tout cas, à la place de Paul Saint-Pierre-Blamondon, puis ce que je vois partout sur les médias sociaux, là, disons que M. Marissal, il s'en sort mal. Là, il est extrêmement critiqué, puis il y a beaucoup de déclarations passées qui reviennent. Alors, il est pas mal teinté. Moi, je ferai attention.
Pure stratégie, si j'étais le PQ, je n'y toucherais pas avec une perche de 12 pieds. Mais PSPP a l'air de bien l'aimer puis a l'air de le vouloir. Sauf que ça vient un petit peu contrer. La stratégie de PSPP, là, c'est de jouer le gars que non, non, on n'est pas à gauche, non, non, on n'est pas à gauche. On essaie de cruiser un peu comme la CAQ a fait, là, il y a ça 8 ans. Là. On essaie de cruiser les gens qui sont un peu plus à droite aussi. Mais tu prends Marissal dans ton équipe, tu te tires dans le pied. Là.
Ouais, moi, je pense que oui. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est ça. T'sais, hier, M. Plamondon, il était prudent. Là, mais est-ce qu'il y a déjà un deal? Là? Est-ce qu'ils ont dealé ça d'avance au mois de juin en disant « Regarde, tu t'en viens chez nous, puis je te réserve le comté, etc. »
C'est ça qu'on sait pas. Il y a juste à reculer. Ce sera pas la première fois qu'un chef du BQ backtrack c'est un deal qu'ils ont fait.
Oui.
À un moment donné, c'est... parce qu'effectivement, les transfuges s'en sortent pas bien. Moi, j'adore les transfuges parce que ça nous permet de donner notre opinion au gouvernement actuel. Mais les transfuges s'en sortent jamais bien. Puis ça sera possiblement le cas pour Vincent Marissal. Parlant de transfuges, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde actuellement qui cogne à la porte du Parti libéral pour y aller.
Ah non, puis chaque jour, on apprend des nouveaux éléments. Il y avait un texte dans la presse ce matin là, qui soulève d'autres éléments. Moi, ce que j'ai remarqué hier, c'est ce qu'on ne savait pas, je pense, c'est que là, le Parti libéral a contacté le commissaire à l'éthique.
Oui.
Parce qu'il y a deux dossiers là-dedans. Il y a le dossier des Brownies, puis il y a le dossier là, des dépenses
à l'Assemblée nationale. Exactement.
Alors là, on parle du dossier des dépenses, l'argent qui aurait été détourné des parlementaires pour aller financer une campagne de M. Rodriguez.
Financer la campagne, la course à la chefferie du PLQ avec l'argent de l'Assemblée nationale.
C'est ça. Alors, c'est ça. C'est ce qui est en cause. Et là, il semble y avoir eu un contact. Mais la question que je me pose, est-ce que Mme Risky avait déjà contacté le commissaire à l'éthique auparavant?
Mais Marois parle plus.
Est-ce que c'est ça que tout foutu en l'air? Est-ce que c'est elle avait déjà contacté le commissaire à l'éthique en disant écoute, j'ai des doutes, puis il y a de l'argent qui n'a pas servi aux bonnes fins, tu sais? Alors, est-ce qu'il y avait déjà le commissaire à l'éthique était-tu déjà dans le dossier ou ça a commencé hier seulement? Alors, il y a beaucoup encore d'inconnus, mais ceci dit, le Parti libéral est quasiment en train d'imploser devant nos yeux. Là,
ça dit quoi aussi sur le système, tu sais, le système politique puis la législation dans laquelle on est, le fait que qu'une élue ne dit pas tout ce qu'elle pense. Il n'y a aucun processus pour la forcer à parler. Elle est dans un chalet à Shefferville. Elle est en train de... je veux dire dans le sens qu'elle est missing in action. Là.
Oui.
Elle est à la maison, les deux pieds sur le pouf, elle regarde sa TV, elle prend son popcorn. Mais les réponses, c'est elle qui les a, puis elle ne parle pas.
Oui, puis tu sais, non seulement elle ne parle pas, mais elle ne peut pas se présenter vraiment à l'Assemblée nationale. Imagine-toi qu'elle rentre à l'Assemblée nationale ce matin, là, ça va être... tout le monde va sauter dessus, là, tu sais. Puis en plus, dans son cas, c'est que son mari aussi,
Greg.
Il est député libéral, alors ils sont deux, tu sais.
Alors... Étais-tu là, lui, hier?
Il n'était pas là hier.
OK.
Alors, tu sais, là, t'en as deux députés libéraux qui sont comme absents. Alors, c'est pas que ça, c'est deux, puis je vois pas comment... T'sais, il faudrait qu'il accélère les procédures, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on peut pas rester dans le flou comme ça pendant six mois de temps, ça n'a pas de sens.
Puis en même temps, il faut en parler, là. En fait, c'est quel genre de politicien on a? Quel genre de politicien on élit? Vous avez la rentrée parlementaire qui se fait hier après une semaine de vacances. Vous avez quatre politiciens qui sont dans le jus, qu'il faut qu'ils fassent face à la réalité. Là. Marois Risky, son chum Greg Kelly, Vincent Marissal, Ruba Gazal. Les quatre hier n'étaient pas là. Quel genre de représentant on a?
Ruba était là hier.
Elle a commenté, mais elle ne s'est pas présentée. Selon ce que j'ai compris,
elle n'était pas allée en chambre. Ça se peut.
Elle n'est pas allée chercher les questions.
OK.
Et quel genre de...
Ah, mais c'est parce que là, il faut dire que là, on a beaucoup d'indépendants aussi, là, tu sais. Puis même, une question qu'on doit se poser, que personne n'a posé encore,
je pense. Ça se fait-tu un parti indépendant?
Le parti des indépendants, des ex, comme disait l'autre.
Oui.
Mais, tu sais, est-ce que Québec solidaire a encore le statut de parti reconnu à l'Assemblée nationale? Et normalement, ça prend 12 députés ou 20 % du vote. Là, ils sont à 11 députés. Alors,
c'est non. La réponse est non. Puis c'est à moins 20%.
C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui autorise ou pas, qui donne, tu sais. Mais ceci dit, théoriquement, il pourrait peut-être perdre son statut parce qu'ils sont en bas de 12.
Ben, François Legault, il veut se faire des amis.
Oui, c'est ça. Alors, tu sais, puis ils vont peut-être dire, bon, il y a une reconnaissance qui existe déjà, tu sais. Mais la question se pose, tu sais, le Québec solidaire est affaibli. Il faut bien s'en rendre compte. Le Québec solidaire est affaibli.
Ben, oui.
Puis les libéraux sont à terre.
En terminant, je vais te parler rapidement de politique municipale. Steph Lachance qui demande une rencontre avec Joël Lightbound, le ministre responsable de la capitale nationale à Ottawa. Je pense que c'est une rencontre qui pourrait faire beaucoup de bien à beaucoup de monde, là.
Ben, écoute, je trouve que c'est une bonne idée de respect citoyen parce qu'il y a eu des textes publiés la semaine passée par Radio-Canada là, où on répète ce qu'on a déjà dit, nous autres ici, souvent. Le financement du tramway n'est pas attaché et il manque encore la portion fédérale. Et c'est pas vrai que le fédéral s'est engagé à mettre 40 par écrit là, dans le projet de tramway qui était, je sais pas, 8, 9, 10 milliards. Alors, il y a eu plusieurs textes qui sont passés dans Radio-Canada s'intéresse à ça. Ils ont publié plusieurs textes en disant que dans les fonds fédéraux, les fonds qui allaient au transport en commun ont été transférés pour faire des infrastructures.
Il y a vraiment beaucoup de médias à Québec qui ont manqué à campagne.
Ouais, tu sais, là, tu dis, ouais, ben, bienvenue en ville, là, tu sais.
Oui.
Alors, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on dit, là, mais là, tu sais, il y a des textes, là, plusieurs textes disant, garde, c'est pas garanti. Puis même les fonds ont été transférés. Puis les enveloppes, c'est pour l'ensemble du Canada et pas seulement pour le Québec. Donc, l'argent n'est pas là.
Mais il n'y aura pas d'argent de plus? Il n'y aura pas d'argent de plus. Regardez partout au Canada, c'est comme ça que fonctionne le fédéral. Le fédéral, il t'a promis une enveloppe. Il ne demande pas d'argent de plus que ça, là. Même si tes coûts ont explosé par la suite, et c'est ça égal pour tous les projets dans toutes les provinces. Si tu veux de l'argent de plus, fais une phase 2.
Exactement. Puis je pense que tu l'as bien démontré la semaine passée, Dominique, là, dans les projets qu'ils ont financés dans le reste du Canada, ils sont jamais allés à 40
t'sais. Non.
C'est pas une pratique, puis il faut bien comprendre...
Une ou deux fois, honnêtement, là, mais c'est rare.
Si aller à 40 % à Québec, là, ça veut dire que toutes les villes au Canada vont lever la main en disant « Regarde-moi aussi, je veux le même financement. Mm-hmm. » Puis là, tu sais, on voit bien que le fédéral n'est pas là-dedans. Il est dans les infrastructures, la défense, et dans d'autres choses. T'sais. Fait que là, moi aussi, je serais bien étonné. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, la demande de respect citoyen. Je ne sais pas si Lightbound va dire oui à cette rencontre-là, mais je serais bien curieux de savoir ce qui sortirait de cette rencontre-là. Parce que, tu sais, le fédéral font semblant, ils naviguent, ils surfent en disant « Oh, on est là, on sera toujours là. » Mais ils n'ont jamais rien signé de concret. Puis malgré tout ça, ce qui était scandaleux dans cette histoire-là, c'est malgré tout ça, bien, la Ville de Québec est en train de forcer le jeu, là, puis d'imposer son tramway, là.
Oui.
Là, je vous rappelle que sur la première avenue, là, ça s'en vient, là.
Oui.
Il y a des expropriations. Vous avez fait une entrevue lundi avec un commerçant, là.
Qui a investi des millions.
Oui, tu sais, il a investi sur la
Il y a
foie.
Deux mois.
Oui.
Ouais, c'est pour ça. Alors, puis lui, sa première avenue, il y a des résidents. Moi, on a des commentaires de résidents qui disent que sa première avenue, ça passe pas. Ils vont couper nos galeries, là, tu sais. Alors là, ils vont exproprier massivement sa première avenue. Puis je vous rappelle une autre chose. La semaine passée, le maire Marchand, il a dit, oui, on va faire des travaux dès ce printemps sur René Lévesque et sur le boulevard Laurier. Et tellement au point qu'on va être obligé d'abolir l'autobus de la 800 à la 801.
Oui.
On va être obligé de faire un parcours alternatif.
Ouais.
Et ça, je voudrais bien savoir, oui, où ça va passer, combien de temps que ça va durer. Ça, c'est le circuit le plus populaire,
oui.
Le plus achalandé à Québec.
C'est lui où il y a trois bus qui se suivent, puis le chauffeur dit aux gens qui attendent, attends le prochain.
Oui.
Là, on dit, là, sur René Lévesque, ça ne passera plus. Vous allez passer par la Grande Allée, puis au nord, puis ça va déboucher sur Hochelaga. Et là, oui, mais combien de temps? Et ça, c'est un des exemples. Ça va être la même chose sur la première avenue, puis sur le boulevard Laurier. Alors là, tu vois, écoute, d'un côté... On nous met devant tous les impacts négatifs du tramway, puis de l'autre, on n'a pas le financement. Puis il n'y a personne qui peut nous garantir que le financement est là. Y aurait-tu moyen, quelqu'un quelque part, qui dise, regarde, on peut-tu mettre ça sur pause le temps qu'on règle ces dossiers-là? T'sais?
Là aussi, les médias ont manqué une bonne game parce que depuis le départ, quand la Caisse de dépôt s'en est mêlée, ils ont fait, ah, oh, c'est crédible la Caisse de dépôt, hein, ça devient un projet qui est très, très, très sérieux. C'était évident. Un des points que j'avais soulevé, là, la phase... Parce que là, toutes les bouts de tramway sont supposés se rabouter, sont supposés se connecter un avec l'autre. La phase 3 qui s'en... On n'est pas rendu là, mais la phase 3 qui s'en va vers le Bourgneuf, là, si jamais ils veulent que ça se produise, t'es obligé de prendre une rue résidentielle entre la première avenue puis l'atrium, puis de tasser tout le monde qui habite là. C'est des maisons, là. Tu prends les maisons et bungalows, tu dis, vous autres, out. Faut que le tramway passe ici.
Oui. Puis, tu sais, la séance d'information qui a lieu demain soir, là, tu pourrais expliquer les changements au règlement d'agglomération qui vont faire en sorte que tu peux accélérer les expropriations sans permis. C'est ça qui va être expliqué demain soir. Moi, j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir là-bas, là, parce que, tu sais, là, tu t'apprends que tu es exproprié, ton commerce ou ta résidence est expropriée, puis on passe un train... En face de ta maison. Il faut bien le dire, c'est un train, là, un train au centre-ville. Alors, écoute, tout ça pour dire que oui, je pense que respect citoyen, je pense une bonne initiative. Quelle sera la réponse? Je ne sais pas.
Je vais te parler de Gilles Laulier à la fin, le pudding chômeur comme dessert, parce que c'est le pudding chômeur, il faut qu'on se restreigne. Là. 13,5 millions. Je pense que Gilles Laulier espérait beaucoup que ce soit Mme Demers qui remporte l'élection.
Oui, grosse surprise, mauvaise surprise à Lévis. Là, dire, on découvre que c'est une espèce de petit cadeau empoisonné. Là. On découvre qu'il manque 13 millions pour faire le budget. Là. Alors, la ville est obligée de comprimer rapidement. Puis là, M. Blainey, le nouveau maire, dit ben, j'augmenterai pas les taxes, mais où c'est qu'on va aller chercher cet argent-là? 13 millions, c'est beaucoup d'argent. Là. Alors, quel service on va couper à Lévis? Puis là, l'administration a l'air un peu désemparée en disant on n'est pas capable de couper tant que ça. Là.
Non, ça
alors,
pas
qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Écoute, je pense que la nouvelle administration à Lévis, là, un beau dossier, chaud entre
les mains.
Oui,
je pense que ça va prendre plus des textes de bienvenue. Hein. Il va falloir qu'on arrête de le moratoire sur les nouvelles constructions.
Dans le cas d'Isabelle Demers, est-ce que Mme Demers, qui était numéro 2 de la ville, est-ce qu'elle était au courant?
As-tu parlé assurément, elle était en charge du budget.
C'est elle qui était en charge du budget, fait qu'elle devait le savoir. Là.
Ouais. Est-ce que c'est une surprise pour elle? Là? Puis, je veux dire, c'est un peu étonnant, ça. Là.
Et l'autre chose...
sont plus là.
Sont plus là.
Il n'y a plus personne qui est là. Serge Bonnet non plus. Et puis là, à l'opposition, il n'a pas été élu. Il n'est pas là pantoute. Il est rendu responsable des communications de son propre parti. Sa première demande, ça a été de demander à ce qu'on change la journée du conseil municipal. Chose qui serait une excellente idée. Là. Le lundi, c'est. Mais le lundi, ça donne moins de temps.
L'autre information de plus, c'est qu'ils étaient au courant pleinement, la gang à l'Aulier et Isabelle Demers, qu'il allait manquer comme ça de l'argent. Ils ont fait préparer un rapport.
Oui.
Faite par la direction générale de la ville ou pour trouver des nouveaux revenus pour combler justement le 13 millions. Là, si on se pose à recevoir ça d'une journée à l'autre, Blainey va avoir ça. Mais les revenus, ça va être des taxes. Là,
on n'avait pas prévu parler de ça, mais je veux en une minute que tu m'en parles. Là. Winter is coming. Magali a mis son manteau de poêle. Les sauvageons vont rentrer pour s'attaquer à la paix sociale l'automne prochain. Tu penses quoi de l'offensive le printemps prochain? Tu penses quoi de l'offensive de la FTQ?
Bien, je trouve que c'est assez inquiétant ce que Mme Picard a dit. Là, elle annonce le chaos social, la guerre, on va paralyser le Québec. Je trouve ça même à la limite irresponsable. Là. À un moment donné, là, ce projet de loi-là, je pense qu'il est légitime. Là, puis il n'est pas en train de bannir les syndicats. Il est en train de les encadrer en disant « Vous devez rendre des comptes sur vos dépenses. » Alors, je pense que ce projet de loi est attendu, il est légitime. Puis je trouve que la réaction est ben trop forte de Mme Picard. Puis
elle parle comme une souveraine.
Ben oui, mais tu sais, c'est comme si elle avait une armée à sa disposition.
Henri Moissé était moins tough que ça.
Alors, puis, tu sais, moi, je me rappelle de Louis Laberge puis de d'autres qui étaient beaucoup plus raisonnables. Il y avait des gens avec qui tu pouvais t'entendre. Là, c'est vraiment, tu annonces la guerre, le chaos social, paralysé de Québec. Voyons donc.
Le petit bébé qui cherche l'attention.
Mais en même temps, sais-tu quoi? Si Henri Massé à l'époque ou si Louis Laberge à l'époque avait dit ça, je l'aurais plus cru. Puis pas parce que... c'est parce que Magali Picard, je pense qu'elle ne contrôle pas ses membres. Ses membres sont pas... Elle n'est pas au diapason de ses membres, en fait. Fait qu'elle a beau dire « On va bloquer le Québec », je suis pas sûr que ta gang va embarquer.
Oui, puis tu sais, on va arriver au bout de la ligne. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir une confrontation. Il va falloir, à un moment donné, qu'un gouvernement au Québec, peu importe lequel, casse un syndicat. Là,
oui.
C'est plate à dire.
C'est là qu'il faut que ça se fasse.
C'est à un moment donné, là, les syndicats emmènent très large, surtout les syndicats du secteur public. Puis là, on voit bien que les gens en peuvent plus. Là, on a vu dans la grève à Montréal, la grève du transport en commun. Alors, à un moment donné, il va y avoir, je pense, un clash sérieux. Là. Et là, disons que les syndicats ont l'air de se préparer. Là. Bien, ceci dit, est-ce que c'est de l'esbrouf ou c'est sérieux? Puis est-ce que les gens vont vraiment débrayer au printemps? On verra bien, mais disons que ça s'annonce mal. Là.
Il va falloir casser les grosses corporations syndicales et celles-ci veulent que le PQ soit au pouvoir. Retenez ça.
Bien, tout à fait.
Puis, Sur ce, merci les gars. Merci. Oui, Donald, le dessert,
vas-y. Il y a une chose que j'aimerais amener.
Un petit brownies.
C'est un autre sujet complètement, mais je trouve que c'est positif. Là. On va parler d'itinérance. Puis j'ai trouvé qu'il y a une initiative à Montréal qui est très intéressante. À Montréal, il y a un gros problème d'itinérance. Là, il y a trois grosses compagnies. Le groupe Mac, Cogir et Devimco qui ont dit, nous autres, on va essayer de régler ça, le problème des itinérants à Montréal.
Avec un prêt Desjardins que le gouvernement va rembourser.
C'est ça. Et on va construire 2500 logements avec du privé. Le privé veut s'organiser pour sortir les gens de la rue à Montréal. On va construire du logement, on va le financer, on va se faire appuyer par Desjardins, on va demander aux villes de nous donner des terrains, on va sortir les gens de la rue. Et ce que je voyais, ils disaient qu'eux autres, là, quand un logement est construit par une OBNL, là, ça coûte 900$ du pied carré. Eux autres, les privés, ça leur coûte 450$ du pied carré. Beaucoup moins cher.
Pourquoi,
Ils sont plus efficaces, ils sont habitués, c'est des développeurs, c'est ça qu'ils font. Alors, tu sais, tu dis, ben là, la question, c'est est-ce que le privé peut réussir là où le gouvernement échoue. Moi, je trouve que c'est encourageant en disant, regarde, il y a peut-être des solutions qui existent, puis le recours au privé, ça peut être bon. Puis je trouve ça admirable. Je ne sais pas si ça va marcher, le projet, mais je trouve que ça donne un vent d'espoir de dire, regarde, là, il y a moyen de faire quelque chose.
Merci, Donald. On se reparle la semaine prochaine.
Morel.
Wow. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.